que nous recevions Sergio Gisardi. Bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de nombreux films, nombreux documentaires. Et ici, si on vous invite, c'est à l'occasion de la sortie de votre dernier film qui s'intitule L'or vert.
Oui.
Et qui est consacré, enfin, qui retrace votre quête de comprendre tout ce milieu, tout ce monde des agrocarburants. Et donc, vous avez fait un tour du monde. Vous avez été aussi bien en Europe qu'en Indonésie, en Argentine, au Mexique, pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, les défis, les rapports de pouvoir en force autour des agrocarburants. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit ?
Oui, c'est ça. Donc le film retrace l'histoire de moi je dirais des biocarburants, parce que il y a les biocarburants de la première génération qu'on peut appeler des agrocarburants, qui sont faits à partir de matériaux de matières premières agricoles, et puis la deuxième génération qui est faite à partir de déchets ou de coproduits. Et donc en fait, oui, c'est une longue histoire, c'est une histoire qui commence en fait dès 2009, où pour la première fois réellement, les biocarburants sont mis sur la table et les chefs de gouvernement européens décident de mettre tout leur poids dans la balance pour lancer les biocarburants. Dans un premier temps, c'est pour répondre à une question qui est une question fondamentale, qui est le réchauffement climatique. Alors, il faut savoir que le transport, c'est le seul secteur d'activité où les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Et donc, il fallait trouver une solution. Ça, c'est, je dirais, la voie officielle. Derrière tout ça, si on regarde bien l'époque, il y a plusieurs raisons qui poussent les chefs d'État à lancer les biocarburants, et qui est une question mondiale. C'est-à-dire, comme on le voit au départ, on voit une réunion avec Lula qui s'embrasse, avec Bush, etc. C'est que pour les Américains, les biocarburants, ça répond à la deuxième guerre de l'Irak, c'est-à-dire à cette peur de la souveraineté énergétique. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas être dépendant du pétrole du Moyen-Orient, une zone trouble où il y a toujours des conflits, etc. Donc ça, c'est le premier point. Pour les Européens, il faut se resituer dans la fin des années 90. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport à l'agriculture ? C'est que on jette l'agriculture sur le marché, sur le marché et dans la globalisation. C'est-à-dire fini les prix protégés, fini la protection de l'agriculture. Ben maintenant vous allez devoir vous confronter aux marchés internationaux et à la spéculation des marchés internationaux. Alors il faut savoir que au niveau de l'Europe et que si on regarde le budget et comment l'Europe a été structurée, c'est que fin des années 90, ben 70% du budget européen, ben il va à la PAC, donc à la politique agricole commune. Donc le poids des organisations agricoles à l'époque est très 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 importante. Donc ils demandent désespérément qu'on leur trouve un nouveau marché, et par miracle, on trouve ce biocarburant avec des produits, des matières premières agricoles, et on leur offre un nouveau marché, un nouveau débouché pour qu'ils puissent compenser la globalisation des marchés agricoles. Et puis, début des années 90, c'est les premiers chiffres, sur les premières modélisations sur le réchauffement climatique. Donc on a en plus une excuse qui est bonne, sachant que les émissions de CO2 dans les transports ne font qu'augmenter, que c'est le seul secteur d'activité qui le fait, parce que les autres baissent. Ben voilà, tout est trouvé, on peut lancer les biocarburants. Et très vite, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on leur rassure une part du marché des transports. C'est-à-dire, on leur dit, ben voilà, dans tout ce qui est diesel, essence, ben nous on va dire que les biocarburants, vous allez pouvoir avoir droit à une petite tranche. Une tranche dans des parts de 5%. Et avec ce marché qui est assuré, eh ben, des milliards d'euros vont être investis partout dans le monde pour pouvoir fournir les biocarburants, pour répondre en tout cas officiellement à cette question, à cet enjeu du réchauffement climatique.
Et donc c'est comme ça qu'on a imposé un pourcentage minimum de biocarburants dans les carburants qui sont utilisés par tout le monde. En fait, tout le monde, tout qui utilise une voiture, en tout cas, et remplit son réservoir d'essence, a une part de biocarburants dedans.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le dit dans le film le représentant du lobby du biodiesel, ben tout le monde ne sait pas, mais tout le monde a du biocarburant, oui. C'est-à-dire à la pompe. Quand la Belgique, en janvier 2017, décide de créer le 10, ben ça veut dire 10% du biocarburant. Alors, est-ce que c'est officiellement, c'est pour répondre à ces enjeux de réchauffement climatique, mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a deux grosses raffineries de bioéthanol. Et donc, c'est surtout leur assurer un marché, de peur de voir ces raffineries fermées, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on leur offre 5%, mais il y a il y en a un qui est pas très content, qui est content et pas très content, pas content parce qu'on leur bouffe une part du marché, c'est l'industrie du pétrole.
Mais oui, c'est ça.
Donc,
ça,
les pétroliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur la spéculation. Oui. C'est-à-dire que quand vous créez un nouveau produit et que vous le lancez, vous avez besoin de stabilité des prix. Et donc les pétroliers, on va jouer au yo-yo avec le prix du pétrole. C'est-à-dire un jour il est à 10 dollars, six mois après il est à 180 dollars. Donc vous savez pas développer, par exemple, surtout les bons biocarburants qui demandent plus de temps en termes de recherche.
Du coup plus d'argent.
Plus d'argent, plus de temps, et si vous êtes soumis à cette spéculation,
rentabilité affectée, évidemment.
Oui. Vous êtes affecté et vous n'arrivez pas à en tout cas à émerger, à consolider une activité et proposer un produit sur le marché qui soit en tout cas et environnementalement viable. Parce qu'on sait que ceux-là sont viables, mais ils subissent en tout cas la pression de l'industrie pétrolière et puis aussi l'industrie et aussi des agriculteurs qui sont les premiers qui ont pris part dans cette tranche de 5% qui s'en sont accaparés. Et quand vous avez un morceau de gâteau, ben vous voulez pas le lâcher pour l'homme, même si vous avez votre petit frère qui est à côté qui fait encore mieux ses devoirs que vous, mais vous allez faire tout ce que vous pouvez pour tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir garder cette part de marché.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant, dans votre film justement, vous montrez bien à un moment, je ne sais plus quel représentant dit les biocarburants, maintenant c'est 70 000 personnes, c'est
des emplois,
c'est... Et du coup, la situation, je trouvais ça intéressant que vous puissiez montrer aussi que c'était pas juste, arrêtons avec les biocarburants, passons à autre chose, qu'il y avait maintenant, ça s'était tellement développé que c'était vraiment tout un secteur d'activité et qu'on pouvait pas juste dire, c'est fini. Et donc, l'enjeu, justement, quand Corinne Lepage a voulu lancer sa... avoir le pouvoir de renégocier, justement, ce pourcentage et... cette réflexion sur les agrocarburants, c'était ça aussi qui a pesé dans la balance ou en partie.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se dire que donc qu'est-ce qui se passe, parce que juste pour essayer de parler de Corinne Lepage, donc on a lancé les biocarburants, puis vous savez, le pétrole c'est moins cher que l'eau et il y en a en abondance. Donc quand vous devez trouver de la matière première pour il en faut en abondance. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déforesté partout, et comme le dit Greenpeace Indonésie, on est en 2017, c'est officiellement il y a 10 millions d'hectares d'huile de palme, pas uniquement pour les biocarburants mais en bonne partie. On peut revenir sur les chiffres après, et on en prévoit 40 millions d'hectares. Alors 40 millions d'hectares, c'est quoi? C'est 10 fois les Pays-Bas. Voilà, comme ça, on a un chiffre. Et donc, on se rend compte de cette catastrophe. Il y a un chercheur américain qui dit « Ouh là là, mais où on va ?» et qui commence à modéliser, qui se dit « Mais c'est pas bon ». Et à partir de là, tout le monde y croyait, et on fait machine arrière. Mais très, très compliqué de faire machine arrière, évidemment, parce que tout le monde a investi, mais c'est des milliards, vraiment, des milliards d'euros partout dans le monde. C'est très très compliqué de revenir en arrière. Alors on joue sur chacun ses arguments, et l'argument de l'emploi, évidemment, ça a été un argument qui a été mis en place pour essayer de garder cette petite part de marché, et puis le business qu'on a, et en tout cas dans un premier temps, c'était de pouvoir amortir les investissements qu'on avait fait. Ça c'est vraiment le minimum du minimum. Mais quand vous investissez vous voulez pas faire du business jusqu'à un moment où vous avez retrouvé votre argent. Vous voulez aussi faire du bénéfice.
Surtout.
Oui, c'est pour ça que vous le faites, sinon on ne fait pas quoi. Oui.
Et du coup, justement, lors de cette réunion, enfin, je ne sais plus si c'est une conférence, une réunion d'une commission, en tout cas au Parlement.
La plénière, oui.
La plénière, Corinne Lepage, elle explique aussi qu'on fait croire à tout le monde que c'est bon pour l'emploi, et même dans le Sud, que ce soit en Argentine, que ce soit en Indonésie, que cette culture de l'huile de palme, ça va apporter plein de débouchés aussi, justement, aux agriculteurs indonésiens, notamment. Elle dit, non, en fait, ça détruit complètement leur culture. On voit bien dans votre film aussi, que ce soit en Argentine, en Indonésie, c'est un désastre écologique, justement,
Ce qui est affolant, c'est que par rapport à la déforestation, les Indonésiens, je n'en parle pas de mon film, mais ils ont acquis un savoir-faire. Et qui déboise, qui déforeste au Gabon maintenant ?
C'est les Indonésiens.
C'est les Indonésiens.
Ils exportent leur savoir-faire.
Ils exportent le savoir-faire, voilà.
C'est beau.
Et ce qui est intéressant aussi dans cette question des agrocarburants, c'est qu'on a externalisé aussi la production justement dans les pays du Sud, là où c'est le moins cher de les produire. Et donc, il y a des solutions alternatives qui pourraient être mises en place ici. Vous le montrez aussi par rapport au pain. C'est le pain, hein ? Au pain PIN. Le sapin.
Ah oui, le pain, pardon, oui, excusez-moi.
Moi, je pensais que c'était tartine, quoi. On était reparti sur les botterames, là.
Donc, la résine de pain.
Voilà,
oui.
La résine de pain, qui est aussi une alternative qui pourrait être mise en place ici. Et donc, qu'est-ce qui explique justement cette résistance par rapport à la seconde génération et aux autres alternatives?
Par rapport, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je sais que je vais dire une phrase bateau, mais le monde est fini. C'est-à-dire on en a de plus en plus conscience, c'est-à-dire que plus on rase, etc. Donc le monde est fini, donc la matière première, c'est pas infini. Donc, l'huile de pain, en fait, qui est un coproduit de la pulpe, de papier, il était utilisé par l'industrie pharmaceutique, par les cosmétiques, par l'industrie chimique. Et évidemment, quand vous voyez arriver un nouveau concurrent qui va demander une matière première énorme, c'est toujours la même chose, parce que le transport,
le volume,
il est énorme. Donc, qu'est-ce que vous dites? Oh, moi, ça me coûtait un, et donc je vois arriver un nouveau concurrent qui est en plus mon fournisseur de matières premières. Je le vois arriver, je me dis, ouh, donc je vais tout faire pour essayer de l'abattre. Et donc, il y a une concurrence acharnée entre les différents secteurs d'activité. Dans ce cas-là, c'était l'industrie chimique. Il faut savoir un exemple que considérer la graisse animale, c'est une matière première avec laquelle on fait du biocarburant également. En Allemagne, l'industrie chimique a réussi à interdire l'utilisation de la graisse animale pour les biocarburants de seconde génération. Pour ces raisons-là, pour des raisons à la fois de volume et à la fois de prix.
C'est la seule, c'est seulement l'Allemagne en Europe qui a interdit ça ?
Oui, c'est le seul pays, oui.
Ça veut dire que les autres pays le font ? Ou qu'ils ont le droit seulement ?
Il faut pondérer, c'est-à-dire que des usines de biocarburant de cette génération, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, c'est difficile à développer.
Il y en a très peu, en fait. Il y a une usine, dans le film, on voit une grosse usine, mais c'est relativement très petite par rapport à une raffinerie de pétrole qui existe à Rotterdam. Et puis il y a cette raffinerie qui est en Finlande, et puis il y a un cas, il y en a une autre en Italie dont j'ai appris hier qu'elle avait fermé pour des en raison de mauvais investissements faits dans les bioplastiques par la maison mère.
Donc en faillite.
Oui, enfin, c'est-à-dire
un
échec commercial, et en tout cas ils sont dans une phase de restructuration, quoi. Et l'usine ne fonctionne pas. Et quand on dit aujourd'hui dans le débat, parce que c'est un débat qui est perpétuel, on va plus utiliser les biocarburants de la première génération, on va assurer une part de marché de 6% pour les biocarburants de la seconde génération. En fait, il n'y a pas l'appareil industriel.
C'est pas encore prêt.
C'est pas prêt parce que, à la fois, les autres, les investissements, et puis les autres, les
ont mis des bâtons dans les roues.
Ont mis des bâtons dans les roues. Les autres secteurs. Donc, c'est un leurre de se dire qu'ils vont y arriver. Et c'est ce que j'ai par rapport au biocarburant de la seconde génération. J'ai essayé de montrer la difficulté d'y arriver de par le fait que, pour reprendre une phrase de Bas Eickhout, qui est un des personnages clés en Europe sur les biocarburants, qui est un parlementaire néerlandais, c'est-à-dire que toute période de transition, c'est une période de combat. C'est-à-dire les acteurs de l'ancien monde vont pas se laisser faire.
Oui, les périodes de réforme sont les plus délicates à traverser.
Voilà, donc et là on est en plein dans cette période de transition. Alors la question c'est de savoir est-ce qu'il faut compter pour réduire ces émissions de CO2 dans le transport, est-ce qu'il faut compter sur l'appareil industriel? Ça c'est une question fondamentale ou se renvoyer à nous-mêmes en tant que citoyens et à nos comportements quotidien.
Oui. Et justement, deux questions encore suite à la vision de votre film. Ce qui m'a frappé aussi, c'est effectivement que ce sont les mêmes personnes, en fait, quand on voit, et à un moment dans le film, on voit tous les pétroliers qui sont là, enfin, toutes les industries pétrolières qui sont là, et qui ont investi elles-mêmes dans tout ce qui est biocarburant. Donc, on se dit, en fait, elles jouent sur les deux tableaux pour s'assurer, justement, une rentabilité et être sur la balle le moment opportun. Donc, c'était ma première question. Et puis, vers la fin du film, effectivement, se pose la question de se dire, est-ce que justement ces transports, est-ce que il y a, je pense, ce député néerlandais qui explique, en fait, la voiture, elle est en perte de vitesse dans certaines la nouvelle génération aussi. Et du coup, est-ce que c'est pas justement la tension que vous montrez entre ce progrès et cette recherche de progrès scientifique pour pallier au réchauffement climatique? Et la nécessité peut-être de, comme vous l'avez dit, le monde est fini, de décroître un petit peu, et en tout cas de viser une réduction de la croissance, de la consommation aussi, de la production.
Alors, par rapport aux pétroliers, leur position n'a pas été, ils n'ont pas tous été pour les biocarburants ou contre les biocarburants. Ce qu'il y a, c'est en tout cas, si on lance les biocarburants, c'est de pouvoir les contrôler. Et donc, on va faire tout faire pour que les nouveaux acteurs émergents, on va les affaiblir, et à la limite, on va ramasser les licences pour 3 euros à la fin. Pour eux, et ça a encore été dit cette semaine, c'est que l'ennemi, c'est l'industrie des voitures électriques. Parce que c'est vraiment les électrons contre les molécules. Pour eux, les biocarburants, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le consommateur, quand vous mettez des biocarburants dans votre moteur en partie, vous ne changez pas votre habitude. C'est la même chose.
Oui.
Tandis que quand on met la voiture électrique, quand on met de l'électricité, c'est complètement différent.
On arrête d'aller à la station-service.
On arrête d'aller à la station. Et d'ailleurs, un des arguments qui est repris dans le film et qui est encore un argument de l'industrie pétrolière et qui rappelle à tous les États, c'est de dire, mes amis politiques, je vous rappelle que les accises que vous touchez en Europe en mettant des taxes dans votre moteur, ça représente 250 milliards d'euros. Donc si vous touchez au pétrole, c'est à ce pacte-là que vous touchez. Donc
à votre propre portefeuille.
Faites bien attention à ce que vous faites. Et quand, pour janvier 2018, on voit en Belgique que tous les incitants à acheter la voiture électrique vont disparaître, ou en tout cas en partie, c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder cette disparition d'incitants. C'est le lobby du pétrole qui pousse les États membres, qui pousse les États en leur disant « Rappelez-vous la manne qui est derrière. » Voilà. Par rapport au comportement des citoyens, oui, c'est-à-dire qu'il est clair que avant, pour les précédentes générations, avoir une bagnole, c'était super important. C'est-à-dire avoir son permis à 18 ans. Tout le monde avait son permis. Enfin, pas moi, mais tout le monde avait son permis à 18 ans. Moi, je suis entouré de préadultes là, qui ont 20 ans. Il n'y en a aucun qui l'ont.
Je ne l'ai pas.
Voilà. Il n'y en a aucun qui l'a. C'est pas super important, quoi.
Bah, surtout quand on habite en ville, c'est vrai que c'est pas indispensable de passer son permis. Peut-être qu'effectivement, il y a une conscientisation. Enfin, je sais pas si on peut faire le lien justement avec tous ces jeunes qui ont été à Bonn à vélo pour la COP23, justement. Mais effectivement, peut-être qu'il y a une conscientisation.
Oui, je pense que ça fait partie du changement de comportement, de la place de la voiture n'est plus la même. Après, il y a plein de on doit en tout cas réfléchir sur la place de la voiture dans nos villes, sur la place du transport.
La place de la voiture dans nos musées, peut-être.
Peut-être dans nos musées, ça aussi. Ouais, tout à fait.
Moi, j'ai jamais eu de voiture encore, mais peut-être ça n'arrivera jamais.
J'en ai eu deux.
Merci beaucoup. En tout cas, ce film, l'avant-première a lieu mardi prochain.
L'avant-première, elle a lieu lundi au Beaux-Arts. Et puis, il reste quelques places pour la première, parce qu'il y a une sortie cinéma le mercredi, au cinéma Aventure. Donc, achetez les derniers tickets. C'est vraiment les derniers tickets. Et donc, il sort par la suite. On fera encore des projections débat dans les semaines qui viennent, parce que pour la question des biocarburants, il y a un grand vote important, comme celui qu'on voit de Lepage en 2013. Il y a un vote important au Parlement mi-janvier qui va redéfinir encore une fois les structures, ou en tout cas le cadre institutionnel, le cadre législatif dans lequel nagent les biocarburants.
Oui.
Voilà. Donc on va faire différentes projections de débat, à la fois à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui.
Et justement, dernière petite chose avant de terminer, ça semble compliqué d'encore agir. Là, vous montrez bien dans votre film que le poids des lobbies, enfin, ils dépensent, je ne sais plus quel est le chiffre.
5 millions d'euros.
Des millions pour justement faire pression.
Le lobby des biocarburants, c'est l'égal du lobby du tabac.
Oui. C'est que 5 millions d'euros ou c'est parce que je suis pas spécialiste des lobbies, j'ai l'impression qu'ils parlent plus avec des montants encore plus astronomiques. Mais c'est déjà pas mal, évidemment, ça dépend combien ils sont et quelles influences ils ont. Et ils sont pas petits.
Merci beaucoup. On va en rester là. Donc l'avant-première à Beaux-Arts ce lundi à 20h en votre présence ainsi qu'en présence d'associations partenaires, donc Oxfam, Transport Environnement, BirdLife, WWF. Puis la première à l'aventure mercredi prochain à 20h. Ça, vous pouvez acheter les places et donc on restera attentif à ce vote. Au Parlement.
Et puis voilà, il sera présent aussi ce monsieur Clay qui est Bass Eichhout, qui viendra parler, qui fera à la suite de la projection lundi, il y a un débat. Et donc Bass Eichhout viendra discuter avec Ariel Brunner de BirdLife sur l'avenir des biocarburants pour 2030.
Ok, voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.